Bon, c'est parti pour une deuxième émission de la saison 1.
Wouhou!
Ouais. je voulais qu'on parle aujourd'hui, dans le fond, quand on commence, c'est quoi débuter, par où qu'on passe, les pièges à éviter, ces trucs-là, dans le fond. C'est quoi être débutant, tu sais? Bref, juste rappel, moi... Ça, c'est bien personnel à moi, là. On verra ça plus tard. Moi, je sépare... Dans le système de ceinture, je le comprends, là, mais je trippe moins. Moi, je pense qu'il y a trois niveaux. Là. Ça, c'est bien personnel à moi. Là. Débutant, intermédiaire, puis avancé. Je rentrerai pas dans les détails trop, mais moi, je pense que quelqu'un devient... Normalement, tu devrais connaître ton système au complet au niveau intermédiaire. Donc, ça peut prendre 10 ans, mais ça se calcule pas en nombre d'années. Ça doit dépendre du style. Normalement, quelqu'un devrait connaître son système sans le maîtriser globalement, mais au moins savoir tout ce qu'il y a dedans au niveau intermédiaire. Puis au niveau avancé, ben là, c'est de le personnaliser puis de rajouter sa touche. Puis au niveau débutant, ben ça te dit, c'est de débuter. Non, alors, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, Marc est avec nous.
Bonjour.
Donc, si tu veux commencer.
Ah ben là, merci. Au niveau des... peut-être continuer avec les ceintures. Pour ma part, ça c'est très personnel aussi. Moi je pense plus comme Monsieur Miyagi. Vous vous souvenez de l'ancien Karate Kid des années 80, 90. Donc il disait, l'important c'est pas la couleur qu'il y a sur une ceinture, mais plutôt à pouvoir tenir un pantalon. Donc... Ça revient pas mal à mon idée générale, mais c'est bien...
Bref, les ceintures en kung-fu, ça va absolument à rien parce qu'elle ne tient pas à tout ton pantalon.
En plus. En judo, un peu plus, là, par exemple. En judo, mieux, là. Mais bref, c'est fait que je voulais juste rajouter ça. L'idée de trois étapes, c'est peut-être mieux que de devoir aller chercher genre 10 ou 20 étapes parce que ça devient beaucoup plus compliqué. C'est sûr que j'imagine qu'avoir une plus grosse classe, tu sais, avoir, je sais pas moi, t'as 20, 50 élèves, là, il faut vraiment que tu commences à faire une vraie dichotomie puis devoir diviser les élèves. Mais si tu as, par exemple, une petite classe, j'imagine que tu as moins besoin non plus d'aller dans les grandes détails, puis dire, OK, toi, tu as une ceinture mauve violette, puis toi, tu as une ceinture mauve verte, puis toi, une... parce que tu t'avances un petit peu. Là.
Oui, il y a surtout... Vas-y. Pas de name dropping. Je sais que Jean-Bernard, un auditeur qui écoutait, tu sais, qui voulait du name dropping, j'en parle pas là-dedans, mais je trouve que des fois, les ceintures... Dans certains systèmes, à un moment donné... J'ai passé par le judo, parce que quand j'étais tout petit, j'ai commencé par le judo, dans le fond, dans les années 90. On m'avait dit qu'il y avait, dans le fond, c'était ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleue, brune et noire. Et là, tout d'un coup, j'arrive dans les cours. Ah, tiens, c'est blanc, jaune, orange. Bref, il y avait un paquet de nouvelles ceintures qu'il y avait. Puis je me souviens, moi, le prof, à un moment donné... c'était avec les loisirs Sainte-Béatrice dans le temps. Là. Puis à la fin de l'année, il y avait un spectacle qu'on faisait, c'était genre au mois d'avril, là, fin de la session. Il avait pris le temps d'expliquer, ouais, c'est un nouveau système qu'on essaye, c'est une nouvelle ceinture, les deux couleurs. Bon. Bref, c'est rendu, dans certains arts martiaux, c'est rendu généralisé. Puis là, des fois, je suis comme... C'est-tu vraiment utile ou c'est pour faire de l'argent? Là, tu sais, je veux dire... Une chose que j'aime avec le jiu-jitsu que j'ai commencé dernièrement, c'est que les ceintures, tu fais pas ça en un an, ça peut être très long. Mm-hmm. Tu sais, puis des fois, je m'étais peut-être mis d'attendre plus longtemps d'aller chercher ta ceinture puis de l'avoir que de mettre des ceintures intermédiaires. En tout cas, j'ai de la misère avec ça. Dans certains cas, des fois, quand tu regardes le prix pour passer un examen d'une ceinture, tu te dis, ouais, c'est-tu vrai? Surtout une ceinture, disons, en de mi-niveau, si je pourrais dire, là, tu sais, ta blanche jaune à ta jaune. Bref, c'est personnel à moi, là. Mais des fois, je me dis, c'est. Tu crées du matériel, puis crées du matériel.
Puis aussi, variant aussi d'arts martiaux en arts martiaux, les couleurs des ceintures sont pas les mêmes, si je me trompe pas. On commence pas tous par blanc, puis après ça orange, puis après ça bleu.
Puis... on parlait de débuter, on va revenir au sujet. Je me souviens quand j'ai commencé le kung-fu. Je me pointe à une école, puis Ah, je vais en nommer l'école, là. C'est pas grave, c'est pas négatif, là, mais c'est White Crane à Laval, c'est là que j'ai commencé le Wing Chun, tu sais. Puis ça donne que, bon, j'ai le goût de commencer un art martial parce que je voulais me mettre en forme, chercher un exercice physique, c'était vraiment ça. Puis, jouer au basket avec du monde, il était pas fier, puis là, c'était compliqué. Puis, je dis, gars, de la merde, on va y aller avec un sport plus individualiste, j'ai juste à me présenter, ça va marcher. Ça a été plus complexe que ça quand je me suis défoncé le poignet, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, j'arrive à l'école, puis là, bon, je téléphone, puis il me dit, ben, gars, viens assister au cours, regarde comment ça se passe. Puis là, ce qui est juste drôle, c'est. Je dis au responsable, ben, c'était Mario, là. Au téléphone, je ne le connaissais pas. J'ai dit, ouais, je suis intéressé par le Wing Chun. Mais il dit, OK, pointe-toi. Et j'arrive au cours, puis l'affaire à l'époque, pour comprendre l'école à White Crane, c'est fait comme un L. Puis, leur main focus, bon, c'est le White Crane, mais à l'époque, il y avait encore des. Ça a pas. C'était pas mal la dernière année. Je pense qu'il y en a des cours de Wing Chun. Après, ils ont arrêté. Puis, bref, la façon que j'étais placé, j'étais à ceux qui connaissent l'école, j'étais où ce que par l'entrée principale, dans le fond, quand tu rentres dans l'école, j'étais assis sur ma chaise. Puis, bon, je regarde le cours. Je vois l'échauffement. Puis là, j'en vois quatre qui partent. Puis qui s'en vont.
En arrière du L.
Où ce que le L, où ce que je peux pas y voir. Moi, je me dis, bah, gars, une raison, je sais pas, tu sais. Et là, je regarde le cours, je dis, ah, oh, ça a l'air intéressant. Tout à la fin du cours, Mario me voit, il dit, ouais, comment on aime ça? Je dis, ah, oh, ça a l'air cool, le Wing Chun. Il dit, non, c'était le White Crane. Le Wing Chun était dans le fond. Oh, j'avais rien vu, mais c'est pas grave. Je dis, je vais faire le Wing Chun parce que ce qui m'avait accroché, c'était le mannequin de bois, tu sais. Sauf que ce qui m'avait traumatisé, c'est que je rentre, je m'assois, ben, traumatisé, relatif, on s'entend, là. Il n'y a pas personne qui est sorti en civière, deux jambes de cassé, mais. Je suis assis, bon, le cours va débuter, je vois les gens qui arrivent, il y a des jeunes, puis il y a une ceinture noire. Deux ceintures noires. Trois ceintures noires. Là, je suis comme. Ils sont toutes ceintures noires. Là, je dis, tabarnak, je vais me faire casser la gueule. Puis là, à la fin du cours, je dis, hey, c'est du haut niveau ici. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mais c'est toutes des ceintures noires. Il part à rire. Il dit, non, mais c'est de la ceinture est pour tenir la bédaine. En fait, ce que je comprends avec White Crane, mais je n'ai pas été assez longtemps, mais il y a comme des degrés, là, mais c'est la ceinture veut rien dire. Tout le monde a une ceinture noire, c'est standard. Puis je me suis rendu compte que d'autres écoles aussi, c'était comme ça. Là. La ceinture noire est débutante, t'sais. Puis bon, j'ai vu d'autres écoles. Un exemple, il y a une école, j'ai vu. L'étudiant commence sans ceinture. Il y a un minimum à faire, je pense que c'est 3 mois. Et là, hop, on lui donne sa première ceinture, elle est noire. Et là, il y a des. Ben, j'appelle ça des dan. Il y a des degrés à faire, puis après un certain nombre de degrés, hop, la ceinture devient rouge. Bon, OK. Notre école. L'étudiant n'a pas de ceinture. Mais cette école-là n'existe plus. Là, mais... Et là, tout d'un coup, oups! La première ceinture est rouge. Après, un noir. Puis, ils mettent une ceinture jaune. Tu sais, oui, ça dépend pas mal des écoles. Je dirais que c'est un système qui est comme ça. Encore là, ça appartient à chaque école. Il y a des affaires qui me dérangent, mais je ne suis pas en train de juger les gens. Chaque école, c'est pas à moi de dire à personne de fonctionner. Moi, j'ai été une école là, pendant un bout qui avait zéro ceinture. Fait que là, tu sais... Moi, j'aime mieux cette mentalité-là. Oui. Parce que, tu sais, j'ai une ceinture noire, ouais, tu l'as acheté en spécial chez Jucado, tu sais. Non, mais c'est ça pareil, tu sais. Je veux dire, ce que la ceinture, tu peux l'acheter. Ce que tu as dans les mains quand tu parles avec tes mains, quand tu fais du chisa ou tu fais un échange de technique, ça, tu peux pas l'acheter. Si tu ne l'as pas pratiqué, ça va paraître, tu sais. Mm-hmm. Mais bref, c'était un peu ça mes débuts. Premier apprentissage, pas se fier au couloir de ceinture d'une école à l'autre.
Toi qui es professeur d'histoire,
oui.
Peux-tu me rappeler les origines de la couleur rouge? Il y avait une question de sang, si je me souviens bien.
Pour ce qui est du rouge, j'en ai aucune idée.
Non.
Sauf que Adam Sue, je ne sais pas si je le prononce correctement, là, il écrit plusieurs livres. Là. Un de ses livres, c'est pas Lone Against the Cold Sky, c'est l'autre, c'est The Polishers. C'est un livre, en tout cas, le nom, c'est quelque chose de... Pas les choses, c'est... Parce qu'il a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres, mais un livre, c'est des histoires, des bouts de théoriques. Puis à propos de la couleur de la ceinture, ce que lui mentionne, en tout cas, en Chine, parce que je sais qu'au Japon, c'est Jigoro Kano qui a rentré ça, si je ne me trompe pas, avec le judo, mais en Chine, l'expression viendrait du shuai jiao, qui est un peu la lutte chinoise, ou mongole, je ne me souviens plus exactement. De ce que j'ai compris dans le livre, c'est que les gars se battaient dans des pits de sable. Et les gars, pour tenir leur pantalon, avaient une corde. Mais quand un gars, ça fait une couple d'années qu'il se battait, qu'il avait sué dessus, qu'il avait saigné dessus, la corde a commencé à être pas mal noire. Fait que souvent, l'expression « Watch out, here comes a black belt », attention, il y a une ceinture noire qui arrive. Je sais pas comment on dit en mandarin, là. Mais c'est probablement de là que ça vient l'idée de la progression vers la couleur noire. Je sais qu'en karaté, on m'a déjà dit que traditionnellement, il y avait une ceinture blanche, puis après un certain temps, tu passais l'examen, puis c'était la ceinture noire, il n'y avait pas de degré. De degré, oui. Mais encore là, je ne suis pas un spécialiste des styles japonais, je ne suis pas un spécialiste tout court, là. Mais par rapport à l'histoire des styles japonais, je vais être bien honnête, là. J'ai aucune idée d'où ça vient, mais ce que je sais, c'est que Adam Sue, il explique ça comme ça. C'est vraiment là. C'est un peu comme les oreilles en chou-fleur. Là. Un gars qui a les oreilles en chou-fleur peut pas dire. Tu peux pas t'acheter des oreilles en chou-fleur. Mm-hmm. Si t'es en chou-fleur, c'est parce que t'as fait de quoi, là. Ça apparaît pas de même, là. Fait que, bref, c'est ça. Mais. Toi?
Oui, quoi?
T'as commencé comment?
Ben, j'ai commencé simplement. J'avais une amie qui en faisait. Puis là, j'ai. En tant que jeune des années 80, j'étais vraiment impressionné par les films, surtout d'arts martiaux. Fait que pendant longtemps, je me suis dit, ah, ça serait bien. Puis finalement, j'ai pris une autre tangente. On va dire ça comme ça. Puis par la suite, mon amie, elle m'a dit, hey, ça serait cool que tu viennes. Fait que j'ai décidé de m'embarquer dans la grande histoire. Première observation. C'était bien, c'était pas en L, le mien, mais il y avait beaucoup de miroirs, puis le monde se pratiquait devant les miroirs, puis il y avait une certaine méthode. Je voyais qu'il y avait des routines à faire, puis de cours en cours, il y avait la même routine qui revenait. Moi, j'irais sur quatre points principaux. Je suis mon enseignant ici, désolé. La première chose que je me suis dit, c'est vraiment que c'était impressionnant. Quand tu rentres dans un art martial ou même quand tu rentres dans n'importe quel, je pense, cours, tu vois ça impressionnant. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup d'observations surtout à faire, puis beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Moi, ce que j'ai fait, puis je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, j'ai commencé à écrire tout. Moi, je suis très, très, très scriptif, donc j'apprends en écrivant. Donc, j'ai tout noté. D'ailleurs, pour faire ce podcast, j'ai relu mes notes de mon premier cours. Rémi peut être témoin de ces notes-là.
C'est sous les yeux.
deuxième chose, c'est, je vous dirais, dans les premiers cours, et là, c'est peut-être quelque chose d'important, je ne sais pas si tu vas me dire le contraire ou pas, c'est de retenir l'essentiel. Surtout la base de l'art martial que tu fais. Je te donne un exemple. Par exemple, en Wing Chun, on a les lignes centrales, le fameux triangle, il y a la lignée, le contrôle, le relâchement, etc. Donc ça, c'est des bases essentielles. Et par exemple, dans le judo, tu me diras aussi si je me trompe ou pas, mais il y a les prises, les projections, les drills, et le respect, puis il y a aussi les réflexions en cours. Donc à la fin du cours, le maître te dit, bon, ben, maintenant, on va prendre 2 minutes de relaxation. Puis tu réfléchis à ce que tu as fait durant ton cours. Ça, c'est des bases de l'art martial. Et par la suite, si tu as bien compris ces bases-là, ben peu importe le mouvement que tu vas faire, à ce moment-là, il va falloir que tu les appliques selon ces bases-là. Fait que si je vous dis des niaiseries, tu me
le dis. Non, c'est
bon. À un moment donné, il faut aussi, puis ça, je trouve ça super important, puis il n'y a pas assez, je pense, dans les arts martiaux, c'est une classe, tu sais, où est-ce que tu as 25, 30 personnes, puis ça, je trouve ça un petit peu dommage, c'est se découvrir soi-même. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu fais cet art martial-là. C'est quoi ton objectif intrinsèque à l'intérieur? Est-ce que c'est pour devenir meilleur? Est-ce que c'est pour, je sais pas moi, tabasser du monde? Est-ce que c'est pour aller chercher une compétence de plus? Peut-être que ça fait le quatrième art martial que tu fais. Puis là, tu te dis, ben, je veux juste augmenter mes compétences, mes qualités en tant qu'art martial.
Ouais, ce qui est bien dans ce que tu as dit, puis je retiens, là, la chose, bon, tu parlais des miroirs.
Mm-hmm.
C'est sûr que moi, quand je donne des cours dans le parc, les miroirs, c'est plus rare. Puis à l'école, il n'y en a pas dans ma classe. Oui. Là. Mais le fait de la structure du cours, la méthode, moi, c'était une affaire que, quand j'ai commencé, j'étais habitué, il y avait une structure, tu le savais, que tu rentrais, bon, il allait avoir le salut, tout le monde allait être en ligne, puis là, il allait avoir l'échauffement.
Mm-hmm.
Ça, on pourra en reparler après de l'échauffement, parce que moi, je ne suis pas fort. Ben, je suis pas contre, mais je vais l'expliquer après. Là. Oh, oui. Il y a l'échauffement, et ensuite, il y avait tout le monde testait, je pourrais dire, de la drill là, par rapport aux rotations.
Mm-hmm.
Aux rotations du corps, que ce soit le style, puis là, ensuite, bon, il y avait une façon, tu savais où tu t'en allais dans le cours.
Oui, il y avait des routines.
Je regarde, bon, la deuxième école où j'ai passé le plus de temps, Wing Chun, il y avait une certaine routine. Oui, l'échauffement était différent. Je t'avoue, j'avais mis ce style d'échauffement-là, c'était les formes. Mais au niveau de la structure du cours, oui, il y avait une structure, puis je ne suis pas en train de critiquer. Chaque école a ses forces, puis cette école-là avait ses forces. Mais je trouvais qu'au niveau des bases, puis ça, c'est une affaire intéressante, les bases. Alors, quand tu rentres dans une école, tu regardes les élèves les plus avancés. Souvent, j'entendais ça par Dave Jones puis Craig Kiesling sur AYA. Une chose qui est importante, c'est que les bases, ça reste les bases, ça reste les fondations. Tu devrais les travailler tout au long de ta pratique martiale.
Mm-hmm.
Et, tu sais, je regarde, parce qu'une affaire que, bon, j'étais pas d'accord avec la deuxième école où j'étais, c'est qu'on passait pas assez de temps à travailler les turnings, mm-hmm. les rotations. Puis ça, à un moment donné, bon, tu rentres dans le cours, tu commences pas à dire au prof comment faire donner son cours, tu sais, mais puis quand je suis arrivé avec mon CFO actuel, ben le premier cours, qu'est-ce qui était arrivé? Il y a eu l'échauffement, puis après, bon, tout le monde en ligne, turning. Là, j'étais comme, bon, voilà. Ce qui me manquait. Les bases. Puis moi, j'insiste pas mal, surtout avec les jeunes à l'école. Quand tu es tout seul avec quelqu'un, c'est différent. Là, mais oui. Quand t'en as 20, vraiment, à chaque semaine, à chaque cours, on va travailler. C'est sûr que, tu sais, des fois, les jeunes, ils viennent le midi, un cours d'extra. Bon, là, on va faire autre chose. Là. Des fois, je n'ai juste un ou deux. Là, mais sinon, on commence. Moi, c'est clair que c'est la forme. Généralement, les turnings, les rotations, les déplacements, mais des fois, le problème, je manque d'espace dans ma classe, fait que c'est touché, c'est comme avance, recule. Fait que là, des fois, je trouve ça un peu redondant. Je dis pas qu'on le travaillera pas, mais il va falloir que je trouve une solution pour ça. Mais là, pour l'instant, comme il commence, juste les turnings, c'est déjà en masse, puis ensuite, on drille les applications. Tu sais, par exemple, ça, c'est ma vision bien à moi. On commence la quatrième semaine. Mais, ou la cinquième semaine avec les jeunes, mm-hmm. c'est sur 8 semaines, puis on va continuer en janvier. Mais j'ai décidé que pour le Silim Tao, on passait 2 semaines sur la première partie de la forme. Puis là, on ne faisait que ça, plus les applications.
Mm-hmm.
Puis c'est sûr qu'à la fin du cours, des fois, il y avait une petite autodéfense, des poignets croisés, prise de gorge, un petit échange. Là. Mais je veux dire, vraiment, on regardait, bon, mais regardez votre temps de sort, il sert à quoi utiliser, voici votre application.
Mm-hmm.
Là, on se met à deux, il y en a un qui donne un coup de poing, l'autre qui fait son temps de sort. On a commencé la deuxième séquence, mais on travaille encore les applications de la première partie. J'ai commencé tranquillement ceux de la deuxième, mais je vais prendre mon temps vraiment, là, qu'on drille les applications, j'insiste là-dessus. Donc, c'est une chose au niveau de la structure qui devrait se voir. Puis, normalement, les élèves... Ben, ça dépend du contexte, là, bien sûr. Là. Mais, tu sais, je veux dire, les anciens doivent naturellement, des fois, s'ils donnent le coup, ils doivent superviser, c'est une chose, mais tu vois que les anciens ne travaillent jamais leur base. Alors, moi, c'est sûr que, tu sais, si le gars, l'école est ouverte 24 heures sur 24, puis que le gars, il a passé 8 heures en journée, ouais, ça se peut que dans le cours, tu comprends. Mais je veux dire, normalement, les étudiants avancés devraient travailler leur base, même, à la limite, le maître devrait travailler.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, moi, dans mon cours, ça arrive souvent, des fois, c'est fou, il arrive, puis bon, on travaille les bases. Des fois, bon, il va être occupé à régler un dossier dans sa gestion d'école, mais souvent, il est devant nous, puis il fait base avec nous. Puis, tu sais, si on travaille les turnings, mais il travaille avec nous. Mm-hmm. Il travaille ses bases régulièrement, puis on le voit faire. Ouais. Tu sais, ça, c'est important. Un modèle. Ben, oui, c'est ça. C'est que quand tu es un débutant, tu observes beaucoup.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, si tu veux que le maître en avant ne s'applique pas à faire ses bases, tu t'appliqueras pas.
Mm-hmm.
À moins, bon, je me souviens, quand j'ai commencé, mon instructeur, à un moment donné, il avait une blessure au genou. Fait que c'est clair que son Yeji, comme il y a des fois, il trichait. Mais, tu sais, le gars me dit, écoute, je suis blessé un genou, à un moment donné, c'est, ah, okay, tu comprends, c'est une blessure. C'est... Non, mais c'est une réalité qui est importante, tu sais. Il faut que, quand tu es débutant, il faut que tu observes. Il faut, mais encore là, il ne faut pas faire comme moi je faisais. Moi, le problème, c'est que j'ai un déficit de l'attention solide. Ça doit paraître quand je parle, là, mais je fais du coq à l'onde. Mais du moment que j'étais dans un cours, admettons, puis qu'on me disait « pratique ton Silim Tao », fait que là, j'étais là, disons, la séquence « Sam by foot », les mm-hmm. trois saluts à Bouddha. Et là, si j'avais le malheur d'entendre un coup sur le mannequin de bois, c'est clair que les yeux décrochaient, puis je regardais qui frappait le mannequin de bois.
Mm-hmm.
Puis je me laissais déranger, tu sais. Et... 2013-2014, souvent je pratiquais dans le cours, j'avais juste ma fille, j'avais pas mon gars. Mais si le voisin partait le barbecue, c'est clair que ça sentait le barbecue, c'est clair que je cherchais d'où l'odeur venait, tu sais. Mais bref, vraiment, quand t'es débutant, c'est le temps d'observer, puis être débutant, c'est le moment le plus important. C'est le moment le plus fun quand tu... Je regarde avec le recul, surtout avec le jiu-jitsu, là, où vraiment je repars de zéro. T'es une page blanche. C'est le temps de laisser les plus avancés. Là, c'est sûr qu'en jiu-jitsu, il y a des réputations des fois. Mais ah, oh, de la viande fraîche, on va se prouver. Là. Mais si t'es dans une école qui a de l'allure, normalement, une ceinture mauve, il ira pas se prouver. C'est une ceinture blanche. Là. Mm. Tu sais, à l'école où je suis, j'ai roulé un peu avec des ceintures plus avancées. Puis bon... Les gars, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils pratiquent le truc, essayent de passer le truc. Mais, tu sais, des fois, à un moment donné, bon, ils prennent une pause, puis ils disent, regarde, passe ta main, là, travaille avec ta hanche. Ça devrait être la même chose dans Wing Chun. Tu fais du chi-sa avec un débutant. À un moment donné, bon, tu y rentres 3-4 applications, des fois, mais à un moment donné, tu prends le temps de tester. Okay. Bon, ça, regarde, ça passe pas là. Pourquoi garde ta main mal placée? Ton coude est trop haut. C'est le temps de contribuer. Puis, en tant que débutant, c'est le temps d'absorber. Quand ça fait une couple d'années que tu en fais, des fois, tu deviens un peu plus... C'est le principe, on devrait être plus souple, tu sais. Mm-hmm. Mais veux pas, même si on dit qu'on a cassé notre égo, il y a toujours un petit peu d'égo qui reste. À un moment donné, tu dis, ah, je connais, mais ça, comment ça se fait, ça marche pas. Puis, attends, tu sais, il faut que tu restes ouvert. Le problème, des fois, que le chi sort, ce que je trouve malheureux, la plupart des sifus m'ont dit la même chose. Mais deux sifus les plus importants, c'est pas un combat, c'est un laboratoire. Tu sais, ça devrait se faire doucement. Sauf que, écoute, qu'est-ce qui arrive? Les mains partent, le monde vont vite. Puis c'est pas mauvais, là. Je dis pas qu'il faut jamais le faire vite, là. À un moment donné, si tu veux développer un certain niveau, tu peux pas t'entraîner toujours au ralenti. Mais souvent, on passe à côté de quelque chose, surtout quand on est débutant, parce qu'on veut bien faire, puis on veut toucher l'autre. Ouais, je commence, sauf que, moi, des fois, c'est l'autre extrême. Moi, je fais juste bloquer, puis j'attaque pas. Puis là, ça, c'est une affaire qui est importante aussi, là. Quand t'es débutant, puis je sais, parce que mon sifu me le répète un paquet de fois, hein, je fais du chi-sa avec. Mm-hmm. Je veux tellement tout bloquer que j'attaque pas. Puis mon sifu, il me l'a dit. Il dit, là, ce qui arrive, c'est que moi, je te fais évoluer, mais toi, tu me fais pas évoluer. Tu sais? Mon sifu, il dit, je m'attends à avoir des attaques pour progresser, tu sais. Ça devrait être ça, la progression. Quand je disais, dans le fond, un débutant intermédiaire avancé, mais c'est un peu ça, on progresse tout le temps, il n'y a pas de fin. Tu sais? Puis donc, il faut aussi, en tant que débutant, travailler sérieusement. Marc, un ancien collègue qui faisait du white train, lui, ce qu'il disait des fois, il dit, t'arrives, tu travailles avec des gens qui s'appliquent pas, leurs positions sont tout croche, ça marche pas. Tu sais, il y a un minimum de respect quand t'es débutant, applique-toi à faire tes positions. Là, je dis pas, c'est sûr qu'un débutant qui commence, la position, tu sais, je regarde mes élèves, par exemple, je leur fais faire des turnings, c'est clair que j'en ai, les pieds sont pas parallèles, il y en a un qui tourne trop. Tu sais, je leur ai dit, tout le monde gagne, pas plus que bouger, amener votre main à... Je dis 45, mais je ne suis même pas sûr que c'est 45. Tu sais, je leur montre. Vous devriez être placé comme ça. Puis c'est clair qu'il y en a premier turning, puis c'est correct. Les genoux pliés, c'est clair qu'il faut que je me promène. Tes genoux, tes pieds. Mais c'est normal, c'est des débutants. Mais c'est parce qu'il y en a qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'ils débutent, c'est parce qu'ils s'en foutent, qu'ils sont sloppés. Puis c'est là que c'est... En tant que débutant, t'as un minimum. Fais un effort. Tu ne demandes pas d'être normal, de pas être parfait. Mm-hmm. Mais il y a un minimum à faire quand on est débutant. T'sais, c'est pas parce que... Faut pas partir, ah, c'est chéri. Non. Il faut que tu fasses ton minimum. Il faut que tu fasses ton effort. Ça, c'est important.
Effectivement.
Un petit peu de thé?
Oui.
Oui? Oui. Ou blanc?
Pour donner du pouce au niveau du des plus expérimentés. Comme tu dis, c'est super important que la personne qui enseigne à l'autre ou qui est plus expérimentée que l'autre fasse attention à celle qui ne l'est pas, tout simplement. Parce que quand tu travailles avec quelqu'un, tu travailles avec un partenaire, tu ne travailles pas contre un adversaire. Ton but, c'est pas de le démolir. Ton but, c'est que lui, il apprenne aussi. Puis ça, c'est important, je trouve, dans la relation que tu as, quand on parlait tantôt des modèles, les élèves plus expérimentés, puis les modèles, justement, tu peux voir tout de suite quel genre d'école tu as devant toi, juste en regardant les modèles aussi. Mm. Si les modèles, leur but, c'est juste de détruire tout le monde, puis de faire « Ah, moi, je suis bon, puis moi, j'ai une ceinture mauve, puis toi, t'as une ceinture blanche, puis je viens de te détruire en 2 secondes. Ouais. » Je pense pas que c'est le genre d'école que tu veux aller chercher. À moins que tu veuilles vraiment...
Je te dirais que s'il y a une nuance à apporter, ça dépend de ton objectif, puis ça dépend de l'objectif, mais ça, normalement, une école devrait s'ajuster aux gens. on n'est plus dans les années 30, 40. Mm-hmm. On défend pas le village avec notre bâton ou nos poings. Mais il y a des gens qui veulent apprendre de la méthode ancienne, de la méthode plus traditionnelle, puis c'est correct. Sauf qu'il faut m'en respecter. C'est sûr que si tu ouvres une école, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ton électricité. Ça se peut que tu ouvres à des gens qui sont peut-être pas intéressés d'y aller full hardcore. C'est pas tout le monde qui a envie de se faire casser le nez pour avoir une médaille d'or. À un moment donné, il faut que tu respectes ton étudiant. L'étudiant va te donner ce qu'il peut, t'sais, mais faut. C'est sûr que si tu veux développer un haut niveau, à un moment donné, il faut que tu joues un peu plus rough aussi. Il faut que tu aies une attitude. Mais ça dépend des gens, puis ça dépend comment tu l'ouvres. Naturellement, dans un gym d'MMA, c'est pas tout le monde qui s'en va là-dedans pour faire le UFC. Mm-hmm. Alors, naturellement, ils vont probablement s'ajuster. Mm-hmm. Tu sais, le père de famille qui va là deux fois par semaine, normalement, il devrait s'ajuster. C'est pas un gars qui veut donner GSP, mais le gars qui veut donner GSP, ben lui, il faut écoute, si tu veux donner GSP, il faut que tu brasses plus, tu sais. Mm-hmm. À un moment donné, il faut que tu t'ajustes à tes gens aussi. Si tu l'ouvres à tout le monde, il faut que tu comprennes que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Tu sais. Mm-hmm. Moi, j'aime ça. Je suis pas un fighter naturel. Et avec la personnalité que j'ai pas la personnalité pour le devenir. Dans le sens que, je veux dire, tu sais, on fait du chissard, je l'accroche un peu, je m'excuse pendant une demi-heure. Mais, tu sais, j'ai pas frappé quelqu'un, je suis pas capable. Moi, quelqu'un toucherait ma fille, ça pourrait être dangereux, par exemple. Là, je pourrais péter les plombs, c'est ça. Mais
c'est une autre situation aussi, là. C'est pas une situation d'école non plus.
Non, c'est ça. Fait,
c'est pas d'enseignement.
Exactement, c'est pas pour tout le monde. Choisissez votre voie. Et puis, il faut pas non plus manquer de respect aux gens qui le font peut-être moins intense que d'autres, dans le sens où il y a une photo où j'avais écrit un texte là-dessus sur le bord de l'eau qui circulait. T'avais des gens en haut. Je sais pas si je n'ai parlé la dernière fois. T'avais des gens en haut de la photo, c'était écrit il y a des black belt, en anglais, there is black belt, le black belt est entre guillemets, puis t'as des gens relax dans l'école de taekwondo, puis t'as en dessous des gars, clairement des gars de jujitsu, là. Pour moi, ils font pas juste du jujitsu, ces gars-là, ils font du MMA. Là, les gars, t'es placé en sueur, puis il y a des vrais, il y a des ceintures noires, mais tu sais, j'étais comme sérieux, là. Tu sais, les gens qui sont sa photo en haut, eux autres, qui ont probablement jamais écœuré personne, tu sais, je veux dire, si des gens le font dans leur petit dojo, puis qui écœurent personne, puis qui. Qui sont honnêtes avec eux-mêmes, c'est une chose, tu sais. Puis les gars en bas non plus, les toughs, ils ont peut-être pas demandé de sa photo non plus, tu sais. Mm-hmm. Quand t'es rendu que tu pousses ça là, je veux pas être plate, là, ça beau. Les gars, oh, on est des Warriors. Va voir des vétérans de la guerre du Vietnam, tu m'en parleras de ces coins war. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de dire, on est tous un peu charlatans d'un autre si on commence à jouer à ça. Puis à un moment, c'est ridicule, il y a un minimum, là. Je pense que l'essentiel, c'est d'être honnête. Si t'es pas un fighter, mais présente-toi pas comme un ballast qui casse tout le monde, tu sais. Puis. Et essaye pas de te monter une réputation. Puis quand tu es débutant, tu parlais tantôt, faire du pouce là-dessus, c'est impressionnant. Ça, c'est un risque quand on commence. Des fois, l'esprit critique, on l'a pas. Des fois, on tombe dans des préjugés. Ah, attends, c'est du taekwondo. Ah, le maître est coréen. Ça va être. Mais pas nécessairement.
C'est comme un restaurant chinois.
Ouais, il peut. Tu sais, on s'entend, là, Chang Li est décédé il y a à peu près 2 ans. C'est pas de lui que je parle ici. La plupart des. Moi, je l'ai jamais croisé, mais je n'ai entendu que du bien de ce maître-là. Mm. Mais il y en a une couple qui n'était pas des Chang Li. Puis des gens qui vont se monter des réputations. Puis des fois, le problème, quand t'es débutant, puis on dit, c'est con, on le dit, des fois, plus le mensonge est gros, moins les gens vérifient. Faut être prudent. Oui. Tu sais, puis le danger en tant que débutant, à un moment donné, c'est d'arriver avec un cul de la personnalité envers le maître. Puis. Une grosse majorité de maîtres cultivent pas ça, mais il y a des débutants. Ah, oh, man, mon maître, il y a des 40. Ouais, mais attends une minute, là, tu sais.
Ouais, c'est l'expérience.
Il y a l'expérience, mais c'est pas parce que lui a une habilité, un talent que t'as pas, que nécessairement, toi, t'es rien. C'est ça le danger. Faut pas que tu penses que lui, c'est la fin du monde. Moi, je suis rien. Non. Il y a ses forces, t'as tes forces. T'es là pour apprendre.
Puis on l'a dit tantôt aussi. plus tu vas. Tu vas pouvoir travailler avec un débutant, puis plus tôt aussi, tu vas apprendre des choses, puis des techniques. Puis il y a peut-être des bases aussi que tu vas faire. Ah oui, cette base-là, ça fait longtemps que je l'ai pas apprise, ben, ou je l'ai pas travaillée. Puis là, tu fais, ah oui, ben, y a toujours quelque chose à apprendre.
Mais tu sais, souvent, l'avantage des fois de travailler avec quelqu'un de moins avancé, il sent tomber dans le game de macho, puis de se prouver. Des fois, comme le débutant, il est pas parfait, souvent... Moi, je me check plus avec tes débutants. Souvent, les élèves à l'école m'ont dit je me check pas mal plus qu'avec toi. Parce que des fois, tu veux leur expliquer une application, par exemple, tu veux leur expliquer un tanda. Je sais pas, un tanda. Fait que là, tu demandes aux jeunes, démonstration, on dit, bon, ben, envoie-moi un coup de poing. Mais le jeune, lui, il comprend pas qu'il faut qu'il fasse, parce que la technique, tu veux l'expliquer, oui. Un coup de poing de Wing Chun, il te rentre avec un crochet. À un moment donné, moi, j'ai un Luigi, oh, il est rentré avec un crochet, j'ai bloqué le crochet, mais j'ai reçu, je l'ai plus ou moins bloqué, j'ai reçu le coup sur le bord. C'est pas ça, pantoute, je m'attendais, j'étais comme, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game, fait faut que tu sois vigilant, parce que des fois, tu demandes un coup de poing, et toi, dans ta tête, c'est clair que ça va être tel type de coup de poing. Le débutant, lui, il est comme, OK, il te rend. Là, faut que tu fasses autre chose, tu sais. Fait que là, souvent, j'en profite dans ces situations-là pour dire aux élèves, regardez, faites attention, pensez pas que cette technique-là est magique, tu sais. Puis là, souvent, je me check. Quand je vois que le coup rentre pas, ben, je fais autre chose. Puis je dis, regardez, j'ai fait autre chose parce que, bon, c'est. Voici une application contre un autre mouvement, c'est ça. Et où je vais essayer de convertir ma technique, leur montrer, regardez, c'est pas ça que je m'attendais, mais j'ai réagi, tu sais. Mm-hmm. Je me suis mis dans la merde. Qu'est-ce que tu fais dans la merde? Je me suis démerdé, tu sais. Ben, moi, c'est fou, en fait, j'ai vu ça. Il dit, si tu te mets dans la merde, c'est pas grave. Mais il dit, qu'est-ce que tu fais?
Oui, c'est faut, ça. Faut que tu sors de là.
Oh, oui, c'est ça. Comment tu te sors de là? Fait que, tu sais, souvent que les débutants, c'est ça qui arrive. Tu te puis, ou des fois, ils vont tester parce que, bon, ils sont curieux. Tu sais, parlant d'anecdotes, ça, c'en est une popée. Ça, c'est une maison qui a fait ça. Mon oncle, OK, zéro dans les arts martiaux, OK, c'est pas ça. Ben, t'as bagarre de rue quand il était jeune, mais à un moment donné, ils sont à Laval, je pense que c'est la Sirène, c'est une grosse salle de réception. Je sais pas pourquoi ils sont là, c'est pas la famille immédiate, fait que moi, je suis pas là, c'est comme de l'autre côté de la famille. Puis, grosso modo, mon oncle qui parle à tout le monde, fait qu'il commence à parler avec la salle voisine, c'est des Asiatiques, puis il commence à parler avec le gars, je sais plus des Vietnamiens ou des Chinois, mais c'est pas ça l'importance, mais... Il commence à parler avec un d'eux autres. Le gars, il parle, puis le gars, il dit « Ah, dis-moi, je suis un prof de Kung-Fu. » Fait que là, mon oncle, il dit « Ah, ouais. » Et là, il dit à mon oncle, il dit « Donne-moi un coup de poing, je vais le bloquer. » Sauf que le problème, c'est que le gars devait s'attendre à ce que mon... Je sais qu'est-ce que l'erreur a fait, c'est que le gars s'est dit « Le monsieur connaît pas les arts martiaux, il va avoir le réflexe de me puncher dans la face.
Ouais. »
Sauf que mon oncle, il a décidé de le tester solide, il a décidé d'y envoyer un crochet, dans, pas un crochet, mais un uppercut dans le ventre. Il l'a pogné direct sur le foie. Il a coupé. Écoute, mon cousin, il dit, je suis sorti des toilettes, il dit, j'ai vu mon père frapper un gars que je connais pas, puis il est tombé à terre. Ça a l'air qu'il l'a pas manqué. Là, le gars s'est relevé, il s'est dit, alors c'est correct, il dit, recommence pour le fun. Puis là, la fois d'après, il a bloqué le coup, tu sais. Mais tout ça pour dire que des fois, il y a l'élément de surprise là-dedans, avec les débutants... Tu sais, quand ça fait... tu sais, je regarde, j'ai des élèves, ça fait 2 ans qu'ils sont avec moi. J'en ai un Oliver, par exemple. Si je demande à Oliver, je vais expliquer une technique. T'sais, Oliver, généralement, il comme ça fait un an, il catch assez vite. Si je dis Tanda, il sait exactement où je m'en vais. Parce qu'il sait c'est quoi je veux montrer, parce que je lui ai montré, tu sais. Mais il y a d'autres élèves, des fois, où tu sais... Ça, c'est drôle, quand t'es débutant, des fois, le problème, c'est que le prof t'explique. Moi, ça m'arrive souvent. Monsieur, à un moment donné, on s'est fou, il nous avait enseigné de quoi. C'était PACDA, mais c'est un peu plus avancé. Puis là, on l'enchaînait avec un une, puis une pompe d'un côte pour pousser la personne. En tout cas, gros, ça semble abstrait, mais c'est pas si abstrait que ça. Là.
Écoute, là, il fait les gestes en même temps.
Oui, bam, bam, vous ne voyez pas. Sauf que, écoute, il expliquait, il n'y avait rien à faire ce soir-là, ça ne rentrait pas. Puis le danger quand tu es débutant, c'est de te dire, bon, si je comprends rien, je suis pas bon. Non, ça rentre pas. Tu sais, ça, c'est mon prof, mon coach de Jiu-Jitsu qui a dit ça à un moment donné. Il dit un soir, il dit, oh, il y a des soirs, des fois, je roule avec le monde, puis il n'y a rien qui marche, puis je me fais démoler. Il me dit, rendu au point que je suis rendu, c'est pouf, une journée comme les autres au bureau, tu sais. Fait à un moment donné, c'est ça, puis je me souviens, cette technique-là, j'arrivais pas à passer. Le lendemain matin, bon, j'y ai pensé. J'étais arrivé dans la classe, j'avais mon mannequin de bois, j'avais pas appairé, j'avais pas d'élèves, j'ai passé une demi-heure.
Juste à faire
ça. Ta-ta-ta-ta. Ça a fini par rentrer. Des fois, c'est ça le problème. C'est que quand on est débutant, on oublie qu'il y a le principe des répétitions. T'sais, les 10 000, comme disait un tel, là, mais si tu répètes pas, ça débloquera pas. T'sais.
Puis il faut que tu te disciplines à ces répétitions-là, sinon ça fonctionne pas
non plus. Il y a ça aussi. Mais le danger, ça, c'est une autre affaire, parce que je parle par expérience. Moi, j'accumule les blessures comme un cave. Là. Puis pourtant, après plus de 10 ans, je devrais le savoir. Puis encore, c'était en jiu-jitsu, je me suis blessé 2 fois. Puis je me suis blessé 2 fois pour la même style de raison. T'sais, quand tu dis le gars, il sait, mais il fait pas. Puis quand j'ai commencé le kung-fu, il est arrivé à la même affaire. Quand tu commences, à un moment donné, tu veux bien faire, tu veux impressionner le monde, tu veux montrer que tu es intéressé, que tu es appliqué. Mais au-delà de tout ça, de respecter l'école, de respecter le prof, il faut que tu te respectes toi-même. Puis moi, je le sais très bien parce que j'ai de la misère avec ça. À un moment donné, ton corps, il a besoin de repos. Puis souvent, on néglige ça. Là, je vais y aller cet été. Bon, je faisais du jiu-jitsu. Première semaine, j'ai fait le premier cours au complet. J'ai fait un combat après le cours. Puis après, j'ai arrêté. J'étais bon. Le prof, il dit correct, pousse pas. Deuxième cours où j'ai pas fait les combats. OK. Troisième cours, je fais deux combats, ça va. Troisième cours, je suis rendu à faire trois combats après, là, c'est de cinq minutes. Puis ça a l'air de rien, là, cinq minutes, mais cinq minutes quand tu roules à terre, là, puis que t'as quelqu'un couché sur toi, puis t'as une ceinture blanche, puis que tu sais sweet fuck all qu'est-ce que tu fais, puis que bref, dans le fond, tu te fais barrer à tout bout de champ, je peux vous dire que ça brûle, tu sais. C'était intense, cette intensité. Fait que généralement, après trois, tu sais, il y a un soir, je n'ai fait trois, je suis arrivé à la maison, oh, prendre une petite bière, pas pris d'eau, et j'ai payé le prix le lendemain matin. Le mal de tête, puis j'étais déshydraté, tu sais. Donc, que tu te respectes. Là, une semaine, je me dis, hey, let's go, je vais y aller une troisième fois. Fait que là, j'arrive le vendredi tout motivé. Puis, ben, je suis fatigué, je m'applique pas comme il faut parce que je suis épuisé. Je me dic, je me. Pas brise le bras, mais. Me suis. Genre, en voulant déplacer. Parce que normalement, la technique, c'était d'aller chercher un single leg, donc on prend la jambe. Et là, on pousse devant soi pour que la personne transfère son poids sur l'autre jambe puis devant la jambe. Moi, j'ai essayé de le lever, mais le gars fait 100 livres de plus que moi. Le muscle a lâché, dans le sens où j'ai senti une douleur. Puis, tu sais, pour vous dire comment ça a lâché, j'essayais de lever ma bouteille d'eau, j'avais de la misère, tu sais. Puis, j'ai été deux semaines à ne pas pouvoir pratiquer parce que, bon, ça me faisait mal. Ah, ça reste dans la main. Fait que la semaine, ça va comme ça. Je fais mes deux fois par semaine. Et là, après deux, trois semaines, je me dis, bon, mais là, on y retourne une troisième fois. Et là, je retourne dans un cours où je roule. Et là, le problème, c'est que je me tiraille avec mon prof. Et c'est vraiment accidentel. Mais j'étais épuisé. Je me suis mal placé. Et j'ai légèrement entendu mes côtes faire crack. Et encore là, c'était le même pattern. C'était la troisième fois que j'y retourne. Mon prof, il se sentait mal parce qu'on l'entendait en sacrement. Mais il n'a pas fait exprès, tu sais. Mais encore là, je suis retourné une troisième fois. J'aurais dû pas y aller trois fois, mais je me suis pas écouté. Puis j'étais physiquement pas prêt, puis ben j'ai payé le prix. Donc, à un moment donné, quand tu commences, c'est sûr qu'il y a des styles, si tu fais du tai chi...
Oui, t'as moins de risque de blessure.
Ça dépend à quel niveau tu le fais. Si tu commences à faire du push-in, puis que... rough, mais je veux dire, normalement, tu peux t'entraîner à tous les jours. Il y a des styles comme ça. Ce que j'aimais bien de mon ancien Sifu, comme il n'y avait pas de réchauffement... formel comme dans les autres écoles, puis que le réchauffement, c'était les formes, ben c'était possible de s'entraîner plus sans courir de risque de blessure parce que, justement, tu ne poses pas comme en MMA, mais si tu t'entraînes... C'est sûr que, tiens, un gars comme GSP doit s'entraîner deux, trois fois par jour, je dis n'importe quoi, là, mais il peut s'entraîner plus souvent parce qu'il a développé au fil des années une résistance, son corps s'est habitué, il y a une préparation physique à ça. Mais quand tu commences, on oublie qu'on ne l'a pas. Et c'est souvent là le risque de blessure parce qu'on ne fait pas attention.
Lui, il doit avoir un horaire aussi. Oui, bien sûr. Très détaillé aussi.
Puis il doit être suivi par des coachs. C'est ça. Mais tu sais, quand c'est monsieur et madame tout le monde, surtout si tu fais ton cours au loisir Saint-Eusèbe, comme disait Michel Bergeron, tu seras peut-être pas suivi. Remarque que souvent au loisir, c'est une fois, deux fois par semaine. C'est pas comme une école professionnelle, comme certaines écoles sont, parce que c'est ouvert à tous les jours. Il y a ça aussi. Donc, vraiment, il faut apprendre quand on commence à dire à un moment donné, regarde, je veux en faire plus, mais à un moment donné, là, c'est la ligne est là, j'arrête. Bon, faites pas comme le mime, j'ai vu, le gars, c'est pas une école de karaté, on apprend le karaté pour pas s'en servir. Le gars fait, ah ouais, s'en va au magasin, s'ajoute une ceinture noire, s'écrase devant la télé, puis mange des chips. À un moment donné, il faut que tu fasses un minimum, il faut que tu bouges. Mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à dire à un moment donné, ok, là, j'atteins mes limites, faut pas que j'abuse. Ensuite, excusez, c'est parce que c'est mon gars qui est en sacrement, qui me perturbe, je l'entends hurler. Petit maudit, il ne voulait pas dormir. Mais bref, sinon, au niveau d'autres observations, mon Marc?
Oui, une observation, puis ça, c'est mon ancienne école. Avant d'être avec Rémi, j'étais avec dans une autre école. Puis dans cette école-là, c'était assez ça m'a tracassé au début, parce qu'il disait... Les débutants ne doivent jamais utiliser la force ou la puissance. Donc, ils doivent faire ça en douceur. Donc, imagine-toi faire un punch, mais super slow, et qui arrive dans le mou. Donc, comme si tu frappais dans le jello, à certains points. Puis là, il disait, ben après, quand tu développes ta technique, puis que tu l'as répété plusieurs fois, puis tu es quelqu'un de sérieux dans, dans ta discipline, à ce moment-là, là, tu peux commencer à utiliser la force.
Ah, je suis d'accord avec ça. Non?
Puis, fait que la douceur, le contrôle, puis ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est un des principes du Wing Chun, si je ne me trompe pas, c'est le contrôle. Ouais. Donc, il faut que tu saches contrôler aussi tes mouvements. Et une des façons de contrôler le mouvement, moi, par exemple, je joue la guitare, puis j'enseigne la guitare aussi à des élèves. Et c'est la même chose. Au début, il faut que tu ailles très lentement, que tu sois précis dans tes mouvements pour pouvoir plus tard, puis quand tu répètes, pouvoir accélérer, pouvoir avoir plus de puissance, et ainsi de suite. Si je ne me trompe pas, à un moment donné, on avait parlé, on a discuté de ça, c'est le coup de poing. Il suffit juste d'avoir, si je ne me trompe pas, c'est comme quelques degrés de différence entre le poing droit, puis coup de poing un petit peu décalé, puis là, tu te casses.
Tu fais une entorse de main,
juste parce que tu n'étais pas précis.
Mais il y a ça aussi, l'affaire que j'ai faite avec les élèves à l'école, j'ai pris des feuilles dans le bac de récup. Là, j'ai dit aux élèves, on va faire un exercice, vous allez vous approcher. Vous allez envoyer votre poing le plus rapidement possible, mais vous allez le retenir. Autrement dit, ce que je voulais, c'est que l'élève donne un coup sans toucher la feuille. Oui. C'est sûr que là, tu sais, à un moment donné, dans une école, j'étais pas du genre, si la feuille fait un bruit, tu fais 50 push-ups, c'est pas ça le but de l'exercice. Mais c'est sûr qu'admettons, il ne serait pas impossible, à un moment donné, une journée, disons, je fais ça une thématique, puis qu'on se dit, OK, gang, chaque fois, vous faites du bruit, 25 push-ups, juste pour se mettre dans le mood. C'est une bonne affaire à faire. Sauf que là, c'était la première fois, puis là, je voulais pas non plus.
Puis ils sont pas déglés non plus.
Non, puis tu sais, là-dedans, j'en ai qui viennent, j'en ai qui sont sérieux, j'en ai qui sont un peu moins, ils veulent essayer, sont curieux. À un moment donné, j'ai du monde, je ne vais pas me les mettre à dos. Mais c'est sûr que si j'avais une école, disons, plus professionnelle dans l'école, ouais, mais là, j'opère, c'est ça. Tu sais, mais l'idée de vraiment, tu sais, c'est sûr que moi, des fois, je le pratique sur le mannequin quand je fais ma forme, je vais envoyer mon poing, je vais le retenir. Naturellement, un débutant, s'il manque son coup, il manque de contrôle, puis c'est aussi quand on pratique à deux, tu sais. Tu veux être capable d'envoyer ton poing quand tu pratiques assez près de l'autre pour dire, regarde, je t'ai touché, puis si je déplie mon coude au complet, bang, t'es dans le cadre sans le blesser.
Est-ce que tu fais attention à ton partenaire?
Plusieurs personnes m'ont expliqué, surtout ceux qui font de la compétition. Des fois, il y en a qui, quand ils pratiquent, ils punchent trop loin, ils arrivent en compétition, en combat, puis ils sont pas capables de toucher l'autre. Le coup frapperait, mais ils ont tellement été habitués à être pas réalistes dans leur pratique que le coup, ils sentent. L'autre n'a même pas besoin de bouger. Tu sais, à un moment donné, à l'école, il y a un élève, il m'arrive en joke, puis il dit « Ah, je t'attaque », il donne un coup. Alors, je bouge pas, il me dit « T'as pas réagi ». J'ai dit « Tu m'as même pas touché ». Il était comme « Ah, OK ». Je voyais à portée, je savais qu'il se rendrait pas. Tu sais, à un moment donné, il était vraiment loin à part de ça, tu sais. Comme j'expliquais à d'autres élèves, à un moment donné, à mes plus anciens, Saïd puis Christian, on était au père, je dis, Christian, ouvre ta main. J'ai envoyé un punch à pleine puissance, mais tu sais, tu vois, il dit, je sais, je peux te frapper fort, je me rends pas, je connais mes distances. Là, j'ai fait un pas de plus, il dit, tu comprends-tu que je le ferai pas? Là, il dit, ouais, alors, je comprends, tu sais. Fait que l'idée de travailler le coup de poing lentement au début, sans force, tu sais, le coup de poing, il y a un départ, il y a une fin, mais il y a un tracé entre les deux qui est important.
Puis une intention t'sais. Aussi.
Oui, il y a une intention, effectivement. Mais tu sais, ton coup de poing au niveau débutant, tu penses que c'est percuté, mais à un moment donné, l'application avancée, c'est que tu bloques avec ton coup de poing pour aller frapper l'autre. Tu te dis, mon c'est fou, tu dis le troisième pack. Tu vas intercepter. Mais pour être capable de développer ça, il faut que tu sois conscient que ben, ton poing, il faut qu'il soit placé de telle façon pour intercepter le poing de l'autre. Puis encore là, ça s'ajuste d'un à l'autre. Cette technique-là, honnêtement, contre certaines personnes, ne sera pas utile pour X facteur. Puis là, comme il n'y a pas d'image. Non, mais ça, il faut que tu t'ajustes à ton adversaire, tu sais, comme j'expliquais. Ça, c'est une affaire qu'on ne prend pas conscience quand on commence. Ça, c'est bien important. On apprend des techniques. OK, c'est cool. Mais là, on se rend compte à un moment donné, quand on pratique un peu plus intense, pourquoi ça ne marche pas avec lui? Mais il y a des raisons, tu sais, je veux dire, par exemple, quand on fait un low bound puis qu'on le convertit en back fist dans le ventre, ben, tu sais, un gars de 8 pieds, disons, un gars de 6 pieds 5, contre une personne de 4 pieds...
Ouais, il n'a pas besoin.
Ben, remarque, encore là, lui, il est plus grand que l'autre, ça se pourrait qu'il... Tu sais, dépendant de la hauteur, ça se pourrait qu'il place puis qu'il fasse mal, mais tu sais, lui, il intéresse à surveiller les coups au ventre, mais le gars de 4 pieds, lui faire des bios, il se rendra même pas avec ses bios, tu sais, il a intérêt à passer au niveau, tu comprends?
Oui.
Tu t'ajustes à l'adversaire qui est devant toi, s'il est plus grand que toi,
il va frapper plus bas.
Il y a des techniques qui sont peut-être moins intéressantes, là, tu sais, je veux dire, le bong sort, normalement, devrait pas être plus haut que l'épaule, tu sais, c'est pas l'idéal, fait t'as peut-être intérêt à sortir ton bio contre le gars qui est plus grand, tu sais. C'est des détails, je rentre pas dans les détails au complet, mais Il faut que tu apprennes à t'ajuster à l'adversaire qui est devant toi. Est-ce qu'il est plus rapide? Ben, ça, c'est pas bon signe. Non, c'est pas, s'il est plus rapide que toi, c'est pas bon. Là. Ça va faire mal, mais je veux dire... comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est plus lourd? Il y a un paquet de détails, mais souvent, ils pensent... Pourtant, on se le fait dire. Mm-hmm. On va se le faire dire, mais il y a tellement de détails. Puis ça aussi, il ne faut pas avoir peur, là, comme tu disais, là, prendre des notes, là. Il y a tellement de détails le premier cours qu'à un moment donné.
Sinon, là, pas capable de.
Tu sais, quand j'ai appris le Silim Tao la première fois, j'arrivais chez moi pour pratiquer. Puis, j'ai une bonne mémoire pour les formes. Là. Apprendre les formes, tu sais, on a chacun nos forces. Mm-hmm. Au niveau des formes, je suis à l'aise, là. Ça allait bien, mais Champ Q, là. Ah, tabarnan. Ah, je tourne trois fois, ta-ta-ta. Puis là, la gaffe que tous les débutants font, qui est pas une gaffe en soi, mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15-20 ans. YouTube! Parce que quand on commence, puis c'est normal, puis il n'y a pas de problème avec ça d'aller voir des vidéos. Moi, je dis tout le temps, aller voir des vidéos YouTube. Sauf que le danger, c'est de comparer sans avoir les éléments complets. Je donne un exemple, c'est Ben Judkins dans Kung Fu Tea. Puis justement, il y a un élève débutant à son école qui arrive. Puis là, l'élève débutant, c'est le mannequin de bois, le mannequin de bois. Puis c'est normal, le mannequin de bois, ça attire l'attention. Tu sais, le Wing Chun n'attirera pas du monde pour sa forme au bâton. Tu sais, c'est pas plus spectaculaire. Mais le mannequin de bois, t'attire du monde, tu sais.
Ben oui. C'est
puis, le gars avait un background en danse. Parce que, puis j'ai une de mes élèves, Leila, justement, elle fait de la danse. Elle, ça apparaît tout de suite quand je lui montre une forme, là.
Ah oui.
Ah oui, écoute, la mémoire, tout est habitué, la coordination, elle l'a. Fait que le gars, il est allé voir la vidéo sur Internet, puis il est tombé sur la vidéo d'Yip Man.
Yep.
Mais tu sais, la vidéo en question, le problème, c'est que les gens ignorent, c'est que cette vidéo-là était filmée par LinkedIn, puis je me souviens plus c'est qui l'autre. Je pense que c'est deux semaines avant la mort de Yip Man. Le gars avait un cancer en phase terminale. Fait que ce qu'on voit sur la vidéo, je dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas représentatif parce que c'est un gars qui est mourant. Et là, lui, comme il était danseur, il regardait Yip Man faire la séquence sur le mouvement, sur le mannequin, pardon, puis il l'a copié. Puis là, quand il est arrivé en classe, il disait « Hey, check ça, man! » Là, le gars, t'as comme... Le gars, il a vu tout de suite. Tu sais, Ben Judkins, bon, comme il fait beaucoup d'études et de recherches là-dedans, il l'a vu tout de suite. Il dit « T'es allé voir la vidéo, il dit ah, « comment tu le sais? » Mais c'est une copie conforme, c'est pas ton Wing Chun. » Tu sais, danger, là, c'est correct d'aller voir sur Internet. C'est correct de voir des vidéos aussi pour apprendre. C'est pas mauvais. Mais il faut faire attention. Puis il faut toujours comprendre que quelqu'un qui démontre une application sur une vidéo, qui démontre une application précise, le même mouvement, tu peux faire plus. Si tu sais comment t'en servir, tu peux faire plein d'applications avec.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est pas le nombre de mouvements que tu connais, c'est est-ce que tu sais quoi faire avec. Mais le danger. C'est que des fois, sur la vidéo, c'est une application précise. Il y a un contexte. Comment je pourrais dire ça? Le prof montre une application que lui veut montrer à ce moment-là. Sauf que des fois, un, tu n'es peut-être pas prêt à faire cette application-là. Tu sais, je veux dire, après ton deuxième cours...
Ouais, le niveau est
trop... Ouais, commencer à dire, ah ben c'est facile, je vais enchaîner le montant, je vais le convertir en bong, je vais faire un bong là-dedans. Attends une minute, là, tu sais, je veux dire, c'est...
Faut t'apprendre d'autres choses.
Ouais, c'est pas l'affaire la plus avancée, je te dirais, là,
mais... il y a quand même une base
à... Ouais, il y a quand même... Mais c'est ça, il y a quand même une base, tu sais. Tu sais, je veux dire, Jitsal, au début, là, c'est...
Oui.
C'est pas le plus facile à appliquer, mais je vais être honnête avec vous, Jitsal, c'est très rare que je le fais, c'est pas... Je l'aime pas trop, tu sais, moi, je suis un fan du bon vieux Labda, là. Vous allez voir, ça, c'est une autre chose aussi, quand vous allez... Au niveau débutant, apprenez à écouter votre corps, vos forces, vos faiblesses, un truc, pratiquez avec des yeux bandés. Votre Silim Tao. Parce que quand les yeux sont ouverts, on voit un paquet d'affaires, on n'est pas concentré. Puis, à un moment donné, il y avait de quoi qui... Mon mannequin, à cause que je me suis blessé un pied, à un moment donné, j'avais slacké. Quand j'ai recommencé, il y avait de quoi qui me dérangeait avec mon mannequin. Je sentais que j'étais pas... J'avais perdu de quoi. Je l'ai fait avec les yeux bandés, j'ai caché tout de suite, je plaçais mal mon bassin. Je sais pas si c'est le fait que j'ai perdu du poids que je jouais là-dedans aussi. Mais il a fallu que je réapprenne à ajuster mon corps dernièrement parce que, bon, il y a des petites mauvaises habitudes. Mais avec les yeux fermés, t'es plus conscient de ton corps que de l'environnement autour. Fait que, ça peut être une bonne technique. Mais pour venir aux vidéos, c'est bien de voir des vidéos sur YouTube, mais n'oublie pas qu'il y a le contexte. Là, la grosse mode, c'est les histoires MMA Destroys Wing Chun Fighter. Sauf que, tu sais, souvent, ces vidéos-là, malheureusement, on n'a pas le contexte, on n'a pas le... Tu sais, ah, le gars, c'est un maître de Wing Chun, OK? Ça fait combien de temps qu'il en fait? 2 ans? Sérieux?
Il a acheté des statues noires.
Non, mais tu sais, il y en a là-dedans, des fois, je ne sais pas que c'est tous des cas comme ça, mais il y en a qui se présentent comme des maîtres, puis, tu sais, la semaine prochaine, on va conclure là-dessus, parce qu'on... Peut-être la semaine prochaine, on va le faire en 2 blocs, parce que je vais avoir du stock à compter la semaine prochaine. Mais... La semaine prochaine, je vais vraiment parler du phénomène paranormal dans les arts martiaux.
Mm-hmm.
Les no-touch KO puis ces trucs-là. Mm-hmm. Parce que quand on est débutant, on est naïf. Puis je me souviens, quand j'ai commencé, j'avais vu une vidéo. C'était la vidéo, mais tu sais, je veux pas, j'enseigne l'éthique. J'ai une formation universitaire en histoire. J'ai tendance à être bien critique. Moi, il y a bien des affaires. Tu sais, moi, comme par exemple, quand ça rentre dans la tradition orale, puis ça, c'est une déformation de moi-même. Je dis pas qu'il faut la rejeter, la tradition orale, mais moi, j'étais... OK, sors-moi des sources historiques, sors-moi ça sur le papier, tu sais. J'ai tendance à être de même. Je devrais pas toujours, mais bon. Et la vidéo, c'était un maître du chi qui avait knocké 200 personnes, tu le voyais. Je regardais ça, je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu vois les gars qui envolent, qui pirouettent. Puis là, après, il se bat contre un gars d'MMA, puis écoute, il essaye sa technique, le gars d'MMA, il le regarde quoi, puis il te le démolit, tu sais. Il y a une psychologie derrière ça, puis le problème, c'est que des fois, les gens sont naïfs au début, puis il y en a qui voient des affaires, oh, wow, c'est impressionnant, tu sais. Hors contexte, donc, un petit esprit critique quand on commence. Il y a des affaires qu'on ne devrait pas faire. Il y a des affaires qui sont carrément dangereuses, là.
Mm-hmm.
Je peux pas dire qu'au Québec, j'ai vraiment vu ça, mais tu sais, en France, il y avait toute une histoire. Le gars, à un moment donné, il y avait des rapports sexuels avec des étudiantes, puis supposément que c'était pour le chi, puis what? Tu sais? Mais ça, puis le phénomène sectaire, on y reviendra la semaine prochaine aussi. Ça aussi,
il y en a encore une couple.
On ne rentrera pas trop dans les détails, mais du coup. Bref, le phénomène sectaire dans les arts martiaux, c'est un phénomène assez intéressant à aborder. En conclusion?
Moi, j'aurais 2 choses à conclure. Pour les vidéos, faites attention aux vidéos. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur Internet de Wing Chun ou même de techniques où c'est juste un plan. Tu n'as pas les autres. Tu sais, s'il place sa main d'une certaine façon, ben, tu ne le vois pas de l'autre bord non plus. Fait que peut-être que toi, quand tu vas le vouloir faire, ben, la main est mal placée. Puis à ce moment-là, ben, tu pratiques d'une très mauvaise façon. Tandis que quand tu as vraiment un maître ou un sifu devant toi, ben, lui, il va tout de suite te le voir. Puis il va tout de suite te le dire en passant, ta main n'est pas à la bonne place. Mais sur la vidéo, tu ne le vois pas. Parce qu'il est souvent juste sur un seul angle.
Ouais, puis des fois, vidéo, tu ne vois pas les jambes.
Mais tu vois pas les gens
en plus. J'ai remarqué ça, beaucoup d'applications en chisard, là. Tu vois juste le haut du corps.
Oui.
Tu vois, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais des fois, c'est parce que le gars pivote, mais il pivote pas énormément. Ça peut être très subtil. Oui. Moi, je le vois avec mon prof, des fois, tu as l'impression qu'il a pas bougé, mais...
Il a bougé quand même.
Disons, j'étais habitué de faire du chisard avec à ça. Fait que des fois, là, je le vois un peu plus, mais des fois, je me rends compte que oui, il a bougé. C'est juste que c'est tellement minime que je m'en rends pas compte. Mais ça, le problème, c'est que si tu vois pas le reste du corps, il faut que le corps travaille ensemble. Puis ça, c'est un gros défaut quand je pratique avec mon prof. Je deviens nerveux et je travaille juste avec les mains. Là. Mais le corps devrait travailler au complet. Mais ça, des fois, sur une vidéo, tu le verras pas. Fait il faut faire bien attention à ça.
Une dernière chose, si je peux me permettre. Et ça, on en a parlé tantôt. Je veux vraiment revenir là-dessus. Un des meilleurs conseils que j'ai à faire aux débutants, c'est travailler avec plein de personnes. Plus tu es diversifié envers les personnes avec lesquelles tu travailles, plus tu vas t'adapter et plus à ce moment-là, tu vas être meilleur dans ton propre style.
Puis sortir de sa zone de confort.
Oui, en plus.
Travailler avec quelqu'un avec qui tu sais que tu vas te toucher 8 fois, contrairement à un que tu sais que tu vas te faire démolir. Okay. C'est sûr que si le gars... Moi, il y a du monde avec qui je déteste pratiquer, pas à l'école où je suis actuellement, mais dans d'autres classes où j'ai été, parce que les gars, t'es juste comme un moment donné, ils se prouvaient, puis 30 ans. Tu sais, recevoir un coup de poing dans le sternum, c'est une chose, mais quand le gars, ça fait... J'ai un exemple d'un gars en particulier, des fois, qui a... Puis le gars, t'es pas méchant, mais des fois, il y avait une bulle, puis il s'amusait à faire tout le temps, en chissant, la même prise d'aïkido, aussi, barre le bras, mais c'est parce que, si, à un moment donné, c'était comme, hey, tu... arrête, là. Là, c'est parce que t'es sur le bord de me casser le bras, ça fait mal. Rentre-moi là ta technique, mais t'es pas obligé de me faire mal pour me montrer que t'as connais, tu sais. Une fois, ça passe, mais là, à un moment donné, des fois, il y en a que ça abuse, puis.
Il manquait de contrôle.
Ouais, puis tu sais, à un moment donné, quand tu manques de contrôle, OK, un accident peut arriver, mais à un moment donné, si tu manques tout le temps, il y a certaines vidéos sur Internet, j'en partagerai une sur le bord de l'eau. À un moment donné, c'est un jeune qui veut se prouver avec son prof, puis à un moment donné, il décide que il pousse un peu prof, puis il pingue son prof sur le bord de la face, puis le prof, oh, mais tu veux jouer à ça, il t'y en rentre une coupe, bang, bang, bang. Tu sais, à un moment donné, il y a une question de respect, là. T'as pas besoin de.
du site à force.
De faire mal pour montrer que un accident. La dernière fois que j'ai fait du chaser, le gars de mon C'est fou, il y avait un gars que je connaissais pas, il était nouveau. Puis, sauf que le gars, je pratiquais avec, dans ses mains, il y a quelque chose avec ce gars-là. T'sais. Le gars dit, ouais, j'ai de l'expérience en boxe. Le gars avait vraiment, lui, là, il avait l'instinct, puis il avait carrément déplacé, il avait détaché ses deux mains de son cerveau. Fait que les deux mains travaillaient vraiment. Puis, quand t'es pas habitué à ça, surtout quelqu'un qui. Tu sais, tu sais que ton prof est-ce que ça va arriver, mais quand c'est un gars que tu connais pas, des fois, ça peut déstabiliser. Mais ce que je trouvais cool, c'est que ce gars-là, il passait ses coups des fois au niveau, au lieu de mettre un coup de poing sur le nez, ce qu'il faisait, c'est qu'il racotait sa main sur mon front. Mais tu sais, c'était pas fait dans le but de rire de l'autre, mais c'était juste comme, bam, j'ai passé. Touché, ouais. Non, c'était correct. Je sais qu'Augustin Fong, une vidéo, m'a dit, mais encore là, il fait ça quand ses étudiants seniors s'amusent à le décoiffer. Sauf que tu vois que les deux rient, puis c'était probablement arrangeant entre les deux, tu sais, je veux dire. Mais je veux dire.
Mais ça.
Le gars, il a compris que j'ai pas besoin de te foutre un coup, gars. Je fais juste à côté ma main sur le front, bien doucement.
Mais pour te dire que j'ai touché.
Gars, j'ai touché, c'est bien correct. T'sais. C'est sûr que dans le ventre, des fois je te fais ça, je te snap avec les deux doigts dans le ventre pour te dire tu bloques pas. Mais encore là, le but, c'est pas de faire mal, c'est pas d'humilier. T'sais. Il y a du monde avec c'est qui je le ferais pas. C'est là. À une des écoles où j'étais, il y avait un gars qui avait ragé. Écoute, il avait rentré un coup de poing, moi, je pratiquais avec un autre gars, j'avais reçu un coup de poing à l'arrière de la tête, je disais, hey, le roux, il chissait contre trois gars en même temps, tu sais. Des fois, ça peut rager, puis. Tu sais, question de contrôle, c'est contrôle de ta force, mais c'est contrôle aussi de toi, là. Mm-hmm. Tu devrais pas sortir d'un cours enragé à vouloir tuer tout le monde, tu devrais sortir plus détendu, tu sais. Mais ça, bon, bref. Le temps file.
Et voilà.
Et on est limité à 60 minutes sur Anchor, donc. Je vous souhaite une bonne semaine. Il va peut-être en avoir une mini cette semaine encore, je vais voir. Je vais essayer de trouver peut-être des conseils aux élèves. Sinon, à la semaine prochaine et on revient avec des histoires étranges des arts martiaux.